Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Babel Pongo Masimango.
La communauté internationale a appelé à poser des actions plus concrètes pour protéger la souveraineté de la RDC et soutenir les efforts de paix. Devant le corps diplomatique accrédité au pays, Félix Tshisekedi est revenu aussi sur les conditions d'un dialogue national et pour lui, il ne sera pas question de blanchir les auteurs des crimes contre la population. À Rouba et en Nord Kivu, le décompte des morts se poursuit trois jours après l'éboulement au carré miné de Kasasa. C'est le deuil partout alors que les familles continuent de fouiller sur le site à la recherche de leurs. Un premier bilan provisoire faisait déjà état de plus de 200 morts. Avec notre invité, le professeur Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale, nous faisons le bilan du découpage territorial en RDC 11 ans après. Il nous donnera aussi son avis sur ce qu'il faut pour stimuler davantage le développement des provinces. Vous le savez, ce découpage a permis à la RDC de passer de 11 à 26 provinces. Madame, Monsieur, bonjour. Situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Le président de la République appelle la communauté internationale à agir concrètement pour protéger la souveraineté du pays et soutenir les efforts de paix. Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs et diplomates accrédités en RDC samedi à Kinshasa, Félix Tshisekedi dit refuser toute négociation avec les auteurs des crimes commis contre les populations congolaises. Pour Félix Tshisekedi, le récent propos de la diplomate rwandaise devant le Congrès américain avouant officiellement la collaboration sécuritaire entre son pays et la rébellion de l'AFC M23 confirme la position de la RDC et doivent être pris très au sérieux, engageant désormais la responsabilité de la communauté internationale. Suivez Félix Tshisekedi dans ses propos recueillis par Grace Hamzati.
Cette reconnaissance n'est pas un détail de communication, encore moins une stratégie politique. Elle éclaire d'une lumière crue ce que de nombreux rapports et de multiples partenaires relevaient depuis longtemps, c'est-à-dire l'existence d'un appui déterminant à un mouvement armé insurrectionnel opérant sur le territoire souverain de la République démocratique du Congo. Mais permettez-moi d'être parfaitement clair sur ce point. Aucune cause, aucun récit, aucune justification sécuritaire ne peut légitimer l'occupation de fait, les administrations parallèles, les déplacements forcés, ni la prédation des ressources au détriment d'un État membre des Nations Unies. Dans ce contexte, l'unité nationale s'impose plus que jamais comme une exigence fondamentale. C'est pourquoi nous réaffirmons notre ouverture à un dialogue entre Congolais, un dialogue apaisé, inclusif, résolument destiné à consolider la cohésion nationale sans jamais remettre en cause les institutions issues du suffrage universel.
Et pour Félix Tshisekedi, si ce dialogue devait se tenir, il se déroulerait sur le sol national et serait conduit, organisé par les institutions de la République dans le respect de la Constitution, des lois du pays et des règles démocratiques qui fondent le pacte national. Ce dialogue intérieur, aussi nécessaire soit-il, ne peut être invoqué pour relativiser une agression ni pour diluer les responsabilités établies. Le chef de l'État insiste, la justice suivra son cours normal avec rigueur jusqu'au bout et sans complaisance afin d'honorer la mémoire de celles et ceux injustement tombés du fait de l'agression. La Belgique alerte l'Union européenne sur un conflit oublié dans l'est de la RDC. Le vice-premier ministre et ministre belge des Affaires étrangères a tiré la sonnette d'alarme vendredi sur la crise persistante dans la région à l'issue du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il a décrit une situation sécuritaire et humanitaire extrêmement préoccupante, marquée notamment par des violences sexuelles massives. Face à cette urgence, le chef de la diplomatie belge appelle à une action européenne plus ferme et immédiate. Maxime Prévost, dans cet extrait choisi par Martial Papimukeba.
Sur le terrain, la situation est pire que jamais, extrêmement préoccupante sur le plan humanitaire. C'est une des raisons pour laquelle nous avons poussé avec d'autres collègues pour que cela figure à l'agenda de ce jour. Je m'étonne d'ailleurs que ce soit seulement la deuxième fois que la situation à l'est du Congo soit traitée en l'espace d'un an. Ça ne peut pas être un conflit oublié. C'est un conflit pour lequel l'Union européenne a aussi un rôle à jouer. Et donc, nous devons, à côté du processus de médiation politique que nous ne souhaitons pas parasiter et qui doit, je l'espère, aboutir à de réelles nouvelle solution de cessez-le-feu et de paix, plaider pour qu'il y ait à nouveau ce retrait des troupes du M23 et du Rwanda, que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC soient préservées. L'urgence pour le moment, elle est à l'action européenne pour résoudre la situation humanitaire. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant toutes les 30 minutes. Et donc, il est urgent qu'on puisse notamment réactiver l'aéroport de Goma, par exemple, pour délivrer massivement cette aide humanitaire, qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a pas de volonté d'un usage militaire de l'aéroport.
Notez que cela fait une année que la FCM23, soutenue par le Rwanda, occupe notamment les villes de Goma et de Bukavu, ainsi que plusieurs agglomérations du nord et du sud Kivu. Les combats se poursuivent dans les deux provinces entre ce mouvement armé et les FARDC appuyés par les Wazalendo. Justement, le chef d'état-major adjoint des FARDC en charge des opérations et du renseignement séjourne depuis hier dimanche à Beni, au nord Kivu, pour une mission de travail. Selon des sources militaires, le général Jacques Kialigonza est allé évaluer les opérations menées dans la région de Beni et Lubero, alors que les rebelles des ADF multiplient depuis quelques semaines des attaques contre les populations civiles. À son arrivée à l'aéroport de Mavivi, il a été accueilli par le gouverneur du nord Kivu, le général Évariste Kakule-Somo, ainsi que par le commandant des opérations Sokola 1, le général Joseph Mugisa. L'agenda détaillé de sa mission n'a pas été communiqué à la presse. Trois jours après l'éboulement qui a touché le carré minier de Kasasa à Rubaya en Nord Kivu, les corps des mineurs continuent d'être retrouvés dans les carrières et les rivières environnantes. Sur place, les familles qui sont sans nouvelles de leurs creusent encore sans relâche sur le site du sinistre. Selon des sources locales, il est toujours difficile aujourd'hui d'établir un bilan définitif, alors que le premier bilan donnait déjà plus de 200 morts. Jude Mister Bilanda nous décrit la situation aujourd'hui à Rubaya.
Selon les habitants contactés sur place, la cité de Rubaya vit au rythme de deuil. Sur presque toutes les avenues et jusque dans les villages environnants, les familles pleurent leurs proches disparus dans cet éboulement qui a enseveli des centaines de creuseurs et blessé des dizaines d'autres. Au centre de Rubaya, beaucoup sont convaincus qu'on ne connaîtra jamais le bilan définitif. Vu la profondeur des puits et la foule qui s'y bouscule, il est impossible de retirer toutes les victimes des décombres. Souvent, les puits deviennent leur tombe et les survivants n'ont d'autre choix que de se déplacer pour creuser ailleurs, expliquent les habitants sur place. Déjà, certains creuseurs ont repris le travail dans d'autres carrés miniers et les commerces ont rouvert leurs portes. Pendant ces temps, les autorités locales organisent l'évacuation des blessés pour une prise en charge à l'hôpital provincial des Goma. Mais au-delà du drame, les habitants de Rubaya dénoncent les conditions de travail devenues extrêmement précaires dans ces mines contrôlées depuis maintenant une année par les rebelles du M23.
Parlons santé à présent, d'abord dans la province de la Tchopo, où la maladie de Mpox continue à faire parler d'elle, plus précisément dans la zone de santé de Basoko. Le choléra n'est pas non plus en reste, comme nous le rapporte Jacques Moukongolé.
Du 1er janvier au 28 du même mois, soit 4 semaines durant, le choléra fait des victimes à Basoko. 57 cas enregistrés pendant cette période, dont 2 décès. Parallèlement à cette pathologie, la Mpox se fait également parler d'elle. 3 personnes en sont mortes. Selon le superviseur d'hygiène, eau et assainissement, Robert Essabé, les conditions sanitaires laissent beaucoup à désirer dans cette entité. En dépit des campagnes de sensibilisation organisées par des équipes cadres de la santé, seuls 17% de la population locale utilise des toilettes hygiéniques. La proximité avec le fleuve Congo et la rivière Aruwimi fait qu'une partie de la population se rabat à ces cours d'eau comme des potoirs et leur lieu d'aisance. En conséquence, cette situation favorise la propagation des maladies d'origine hydrique au sein de la population. Afin de pallier la carence d'eau potable à Basoko, le superviseur d'hygiène eau et assainissement plaide pour l'amélioration des conditions y afférentes.
Nous plaidons par rapport à la construction et réhabilitation des points d'eau dans la zone de santé de Basoko pour améliorer les conditions sanitaires de la population.
Il recommande également l'édification des latrines publiques et la sensibilisation de la population sur le traitement de l'eau. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Pendant ce temps, la province du Congo central fait face, elle, à une recrudescence de l'épidémie de rougeole. Rien qu'en janvier cette année, 351 nouveaux cas ont été enregistrés dans 10 ans de santé avec 5 décès. Ceci qu'a révélé le ministre provincial de la Santé du Congo central dans un message officiel de sensibilisation de la population sur cette maladie contagieuse. Docteur Ovid Yobila affirme que pour éradiquer cette épidémie, le gouvernement provincial du Congo central a renforcé les actions de riposte. Il appelle les parents à faire vacciner tous les enfants âgés de 0 à 23 mois dans les centres de santé les plus proches. Docteur Ovid Yobila fait le point et lance son appel dans cet extrait choisi par Nana Purish Mambo.
Depuis l'année 2025, notre pays fait face à une recrudescence de l'épidémie de rougeole. Il s'agit d'une maladie hautement contagieuse qui touche principalement les enfants non vaccinés et peut entraîner de graves complications, voire la mort. La province du Congo central n'est malheureusement pas épargnée. En 2025, la province a enregistré 5 décès sur 479 cas de rougeole notifiés dans 28 zones de santé. Sur les 192 échantillons prélevés, 96 ont été confirmés positifs. Depuis le début de l'année 2026, la situation demeure préoccupante, avec au moins 5 décès sur 351 nouveaux cas enregistrés. Ces chiffres confirment que la province du Congo central est actuellement en situation d'épidémie de rougeole. Face à cette situation, le gouvernement provincial du Congo central a enregistré et renforcé les actions de riposte. Ces actions portent notamment sur le renforcement de la surveillance épidémiologique, la prise en charge des cas dans les structures de santé et l'organisation des activités de vaccination. J'en appelle à la responsabilité de chaque parent et de chaque famille. Amener immédiatement l'enfant au centre de santé en cas de fièvre, d'éruption cutanée généralisée, de toux, de rougeur des yeux, d'écoulement nasal et de tout autre symptôme suspect.
Pour clore cette page consacrée à la santé, au Maniema, le coordonnateur provincial du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées appelle le gouvernement provincial à accompagner les efforts de lutte contre ces maladies dans cette province. Dr. Lucky Tété l'a dit à Kindu en marge de la journée de lutte et d'élimination des maladies tropicales négligées qui intervient le 30 janvier. Il exhorte toute la communauté à respecter la prise en charge des médicaments qui sont donnés et gratuitement pour mettre fin aux maladies tropicales négligées. Je veux Dr. Lucky Tété dans ses propos recueillis par Florence Kizalou.
Nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que le gouvernement provincial puisse prendre conscience par rapport à l'existence des maladies tropicales négligées dans la province du Maniema et qu'on puisse inscrire ces maladies dans leur agenda comme une priorité dans le cadre des luttes et l'élimination des maladies tropicales négligées dans la province du Maniema. En outre, nous sommes en train de lancer un message fort à la population pour une mobilisation générale autour des maladies tropicales négligées pour que la communauté adhère dans la lutte. Il faut dire que ces maladies tropicales négligées existent bel et bien dans la province du Maniema. Au vu des enquêtes qui ont été réalisées, on a retrouvé les 5 maladies tropicales négligées, à savoir l'onchocercose, la sclérose lymphatique, les schistosomiases, les vers intestinaux ainsi que les trachomes. Ces maladies, jadis, étaient considérées comme si n'avaient pas un impact important dans la communauté, mais il a été démontré actuellement que ce sont des maladies causées des dégâts énormes et qui entraînent une morbidité ainsi qu'une mortalité assez considérable.
Nous sommes au Kasaï central. Les travaux de construction de 3 châteaux d'eau dans le territoire de Demba sont à l'arrêt depuis plus d'une année. Ces ouvrages réalisés dans le cadre du projet de renforcement des infrastructures socio-économiques avaient pour objectif d'améliorer l'accès de la population à l'eau potable. Ils sont destinés aux habitants de Zapo, de la commune rurale de Demba et ceux de Benaleka. La nouvelle société civile congolaise du territoire de Demba appelle le gouvernement central à s'impliquer pour la reprise et l'achèvement de ces travaux. Mais qu'est-ce qui explique l'arrêt de ces travaux justement, André Katende?
Selon les coordonnateurs territoriaux de la nouvelle société civile congolaise de Demba, plusieurs raisons expliquent l'arrêt de ces travaux. Ils citent notamment le retard dans les financements du projet par le gouvernement central, les vols répétés de certains matériaux par l'équipe de maintenance et par une partie de la population, ainsi que la faible implication des autorités locales dans la gestion des biens publics. Au niveau des Zapo-Zapo, tout est terminé, il ne reste plus que l'eau soit distribuée à la population. À Demba, les tuyaux de distribution sont déjà installés, mais le château d'eau est encore en chantier. Enfin, à Benelika, les travaux de construction sont achevés, mais les tuyaux ne sont pas encore installés. Face à cette situation, Marcel Massanka, coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise, appelle toutes les parties prenantes à s'impliquer afin de permettre l'achèvement de ces ouvrages et de garantir à la population de Demba l'accès à l'eau potable.
Que tous intervenants puissent écouter notre plaidoyer afin que ce projet aboutisse. Nous voulons avoir de l'eau qui peut asservir toute notre population du territoire de Demba.
Signalons que ces travaux ont débuté en 2024 pour une durée d'une année. Kananga, André Katendengala Mouloumé, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Quelques jours après que l'Union européenne a accepté d'ajouter le corps des gardiens de la révolution islamique de Téhéran à la liste des organisations terroristes du bloc, l'Iran a déclaré en représailles les armées des pays de l'Union européenne comme étant des groupes terroristes. Les armées des pays européens sont considérées comme des groupes terroristes et l'Union européenne est responsable des conséquences de cette décision, a indiqué le président du Parlement iranien. C'est ce que rapporte africanews.fr.
L'invité.
Le découpage territorial de 2015 a permis à la RDC de passer de 11 à 26 provinces, y compris Kinshasa. Même si cette réforme indispensable dans un pays aux dimensions continentales figurait dans la constitution de 2006, sa mise en œuvre est intervenue 10 ans plus tard. Les grandes provinces comme le Bandundu, le Katanga, le Kasai, l'Équateur et la province orientale ont été morcelées afin de rapprocher les gouvernants des gouvernés et de favoriser le développement local. Cependant, de nombreuses provinces font face au manque criant d'infrastructures, à des défis financiers énormes et à des tensions ethniques et claniques. Quel est le bilan du découpage territorial en RDC 11 ans après? Comment stimuler davantage le développement des provinces? Pour en parler, Radio Okapi reçoit le professeur Jacques Joly, rapporteur de l'Assemblée nationale. Ils s'entretiennent avec Blaise Oshindani Kambala.
Bonjour monsieur le rapporteur de l'Assemblée nationale.
Bonjour monsieur le journaliste.
11 ans après le découpage territorial de 11 à 26 provinces, quel bilan dressez-vous à ce jour?
Mais je crois que on ne devait pas parler de 11 ans, même si la loi de programmation effectivement a été promulguée en 2015. Mais il faut faire 20 ans parce que la mise en œuvre de ces schémas de gouvernance politico-administrative était prévue par la Constitution du 18 février 2006. Malheureusement, de 2006 jusqu'en 2015, c'est-à-dire plus de 9 ans, les schémas n'ont pas été appliqués alors qu'on les prévoyait 36 mois. Alors lorsque on le fait en 2015, eh bien, il y a le bilan, comme nous avons pu le dire, est très mitigé. Très mitigé parce que c'est vrai qu'il y a des poches d'espoir de certaines provinces qui ont pris de l'élan, mais la globalité des autres provinces ont des difficultés à émerger. Mais est-ce que c'est la faute de l'architecture normative ou de ceux qui étaient appelés à mettre en place ces schémas qui devaient donner, outre leur propre engagement politique, des ressources, des moyens, mais aussi des compétences pour que cette architecture soit mise en œuvre?
En des termes simples, professeur, quels sont les avantages aujourd'hui de cette décision sur le plan administratif et du développement? Est-ce que le découpage a réussi à rapprocher les dirigeants des dirigés?
C'était l'objectif, non simplement de rapprocher, mais de démocratiser. Nous devions élire nos gouverneurs, nos députés provinciaux, par la base. Nous devions élire indirectement nos conseillers des secteurs, nos conseillers communaux. Malheureusement, ce schéma électoral a montré ses limites, non simplement par la recentralisation rampante, c'est-à-dire que les résultats n'ont pas suivi. Mais les résultats n'ont pas suivi pourquoi? Est-ce que les ressources ont été mises en place? Est-ce que les acteurs ont été préparés pour assumer? Donc, il y a une grosse déception. Malheureusement, il faut analyser pourquoi cet échec. C'est vrai qu'il y a eu des correctifs, notamment avec le programme de développement des 145 territoires. Mais là aussi, il y a des poches de lumière, mais le programme lui-même reste inachevé. Donc, je crois, à mon avis, qu'il faut un moment de réflexion objective pour dire exactement qu'est-ce qui n'a pas marché, et que ce sont les textes ou ce sont les hommes et les moyens qui n'ont pas suivi.
Alors, la balle est donc dans votre camp. Qui va décider pour qu'il en soit ainsi?
Mais j'espère que le gouvernement, qui a la mission, n'est-ce pas, d'assurer le bonheur, la mise en œuvre, parce que dans le programme du gouvernement, la finalisation du programme de réforme de l'État est en première position. Nous espérons que à la prochaine conférence de gouverneurs qui aura lieu notamment dans la province de Kwilu. Ça va nous permettre de lancer cette grande réflexion qui tombe d'ailleurs à l'occasion du 20e anniversaire de notre constitution qui intervient le 18 février 2026.
Alors, pour terminer, dites-nous, professeur, quels sont les défis qui restent à relever quant à ces découpages territoriaux?
Les défis, c'est d'abord, comme je l'ai dit, la mise en œuvre effective. Il faut voir ce découpage dans un schéma systémique. Ça veut dire quoi? Nous n'avons pas fait les 26 provinces pour que les gens soient élus tout simplement gouverneurs et députés provinciaux. Ils ont été élus pour une vision axiologique, c'est-à-dire assurer les développements, faire de ces 26 provinces des composantes de l'État et des centres d'impulsion du développement en rapprochant les citoyens. Mais malheureusement, il y a eu cette fragmentation. Il n'y a pas de budget dans ces provinces et on savait dès le départ que sur les 26 provinces, il y avait simplement 3 ou 4 provinces qui avaient déjà un budget. Mais est-ce qu'on a mis en place la Caisse nationale de péréquation?
C'est ça,
est-ce que les moyens qui sont envoyés en province sont réellement mis au service du développement ou ne sont pas détournés? Donc j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le ministre national de la Justice envoyer une équipe du parquet pour enquêter sur la mégestion du province du Congo central. Je crois qu'il faut envoyer des équipes dans toutes les provinces. La Cour des comptes ne doit pas simplement fonctionner à Kinshasa. Il faut une Cour de compte provinciale pour veiller sur le respect des affectations des ressources nationales et provinciales. Les provinces sont des butins des gouverneurs et leurs alliés. Donc, il y a un vrai problème là-dessus. Et au-delà de cela, l'inspection générale des finances doit de manière rationnelle essayer de canaliser les ressources. Donc, en fait, si les découpages et au-delà des découpages, la mise en œuvre de toute la politique de gestion de province pose problème, c'est parce que, un, il n'y a pas eu des études sérieuses, deux, il n'y a pas eu de planification et cette gestion est nos émotives nous amènent à cette dérive. Mais je ne suis pas sûr que si on revient à la recentralisation, nous allons arriver à des résultats contraires. Il y a certainement des choses à voir. Est-ce que 26 provinces? Est-ce qu'il faut revenir aux 11 provinces comme c'était avant? Ça résoudrait quelle province? Parce que pendant les 36 mois avant la mise en œuvre ou les 19 ans avant la mise en œuvre du découpage, est-ce que les provinces dans leur structure ancienne, ont pu faire mieux. Il y a une province comme le Sankuru qui n'a jamais pu faire même fonctionner un gouverneur de province. Est-ce que c'est la faute au découpage de Sankuru ou la faute aux acteurs politiques de Sankuru qui ne sont pas capables ou n'ont pas la perception de vouloir faire de cette entité un lieu de développement et non un lieu de confrontation des ambitions des uns et des autres. Voilà.
Professeur Jacques Njoli, je vous dis merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Jacques Njoli, rapporteur de l'Assemblée nationale. Merci à vous qui venez de suivre ce journal préparé par Jude Mista Bilanda, mis en onde par Dieudonné et Nyangasa. Très bonne semaine à vous.